on a beaucoup parlé de la délinquance des jeunes. On n'a pas assez parlé de la délinquance des adultes, c'est-à-dire de leur culpabilité devant le grand problème que pose notre jeunesse. On a assez accusé les jeunes d'être ce qu'ils sont, c'est-à-dire rebelles, contestataires, cyniques, violents et amoraux. On verra que derrière ces mots se cachent deux réalités auxquelles on ne pense presque jamais et qui ont pour nom déception et désespoir. On a également trop accusé les professeurs d'école et les directeurs de conscience. Tous portent évidemment une part de responsabilité. Mais on veut trop souvent oublier que la véritable source de ce mal se trouve dans le foyer. C'est là que l'argile tendre, malléable et docile de l'enfance est modelée. Certes, elle subira certaines influences extérieures qui la marqueront aussi. Mais les empreintes, ou plutôt les impressions les plus profondes, les plus déterminantes dans le comportement de l'être futur, c'est à la maison que l'enfant les reçoit. L'âme d'un enfant est comme une terre vierge, merveilleusement fertile. Elle produira avec abondance tout ce qu'on y sèmera. J'ai un ami qui est photographe. Il est passionné par son métier. Son appareil ne le quitte virtuellement jamais. Dans la rue, au hasard de ses courses ou de ses promenades, il est toujours prêt à fixer sur la pellicule telle scène, tel spectacle, tel événement, tel détail de la vie de tous les jours. Les documents qu'il collectionne ainsi ne sont pas tous de nature à faire sourire. L'une des photographies les plus déchirantes qu'il possède est celle d'un homme buvant du vin à même la bouteille, dans un geste qui trahissait une longue habitude, devant le regard admiratif de son jeune fils. Edgar Hoover, célèbre chef du FBI, signale qu'un grand nombre de crimes commis par les jeunes de 13 à 19 ans ont pour cause directe la délinquance de leurs parents, qui n'ont pas pris le temps de veiller, surveiller, ni donc d'aimer leur enfant. La plupart de ces jeunes criminels venaient de foyers brisés. On ne peut s'empêcher de frémir lorsque l'on constate d'une part tout le mal qu'un foyer désuni peut faire à l'enfant, et lorsqu'on sait d'autre part tous les efforts que l'on déploie dans le but de rendre le divorce plus accessible, moins compliqué, plus naturel. Le livre dans lequel Edgar Hoover a consigné ses réflexions et ses déductions porte un titre qui est déjà un terrible réquisitoire. Le crime commence à la maison. Dieu a institué la famille. Rien ni personne ne peut la remplacer. Aucun substitut n'a jamais pu réunir tous les éléments indispensables au développement harmonieux de l'enfant. Encore faut-il que le père et la mère aient conscience de leur pouvoir, donc de leur responsabilité, et qu'ils lui donnent ainsi généreusement cet équilibre dont il a besoin. Jean Rostand, dans son livre « Science fausse et fausse science », fait mention des travaux du docteur Spitz, qui a étudié le développement de la sensibilité et de l'affectivité chez l'enfant. Genèse de l'émotion, éclosion de l'intérêt qu'il porte à autrui, naissance du sourire et surtout la nature des rapports affectifs entre la mère et l'enfant. Avant Spitz, on ignorait à quel point la présence de la mère compte pour le nourrisson et que toute la destinée d'un individu peut être bien ou mal orientée par la qualité heureuse ou malheureuse de l'influence maternelle. L'enfant est-il privé d'amour ou du moins de la quantité d'amour qui lui est nécessaire? De graves troubles peuvent s'ensuivre, tenant à une sorte de carence affective dont les effets deviennent irréparables si la situation se prolonge. D'admirables films de Spitz nous permettent de faire la comparaison entre des enfants élevés dans des garderies, crèches ou pouponnières. Les soins matériels sont équivalents pour les uns et pour les autres. Même distraction, même jouet. La seule différence est que dans le premier cas, l'enfant possède sa mère pour lui tout seul, alors que dans le second, il n'a pour ainsi parler qu'une fraction de mère, mettons un dixième, puisqu'une infirmière compétente assure la garde d'une dizaine d'enfants. Les enfants qui ne bénéficient que d'une fraction insuffisante de mère sont inquiets, angoissés, inhibés, refus de contact avec l'entourage, désintérêt d'autrui, manque d'élan, hébétude, insomnie, accès de violence et de jalousie, détérioration mentale progressive, tout cela qui se lit dans les regards, dans les gestes, les attitudes, les voix, apparaît dans les 20 000 mètres de film qu'a tourné le docteur Spitz. Et ce qui est peut-être encore plus émouvant, c'est que ces enfants, partiellement orphelinés, malgré les bons soins, les fortifiants, la bonne nourriture, les médicaments, manifestent une déchéance physique. Retard de croissance, perte d'appétit et de poids, désordre nutritif, augmentation de la sensibilité aux infections, etc. En fin de compte, la mortalité se montre beaucoup plus élevée dans la pouponnière que dans la famille. On voit ici, comme dans d'autres domaines, que lorsque l'homme dérange l'ordre voulu et institué par Dieu, il y a une conséquence inévitable qui s'appelle la souffrance. Trop de parents se contentent de donner la vie à leurs enfants et de les maintenir en vie. On dit alors qu'ils élèvent leurs enfants, un peu comme le fermier élève ses poules et son bétail. Faire un enfant n'est rien. Ce qu'il faut, c'est former un enfant. C'est là que réside le problème. C'est là que réside aussi la solution. Former un enfant. Voilà quelle doit être la vocation sacrée de tout parent. Hélas, les parents modernes n'en ont presque plus le temps. Notre monde occidental est celui de l'abondance. Dans bien des familles, le père et la mère travaillent. Non pas toujours par nécessité, mais parce que tout le monde le fait et que cela permet quand même de consommer davantage. Mais tout ce temps passé au travail doit se grignoter sur le temps que l'on devrait consacrer à l'éducation des enfants. Car lorsqu'on rentre chez soi, en fin d'après-midi ou le soir, c'est pour se reposer. On croit pouvoir compenser cette négligence à l'égard des enfants en leur donnant tout ce qu'ils veulent. En effet, matériellement, il ne leur manque rien. Ils en ont même trop. Et plus ils possèdent, plus ils sont exigeants, moins ils sont reconnaissants. Il ne leur manque rien, il leur manque l'essentiel. Il leur manque la sécurité qu'apportent l'amour et l'attention et l'autorité. Et cette sécurité-là n'a rien à voir avec la sécurité matérielle. Que voulez-vous qu'un enfant fasse d'une montagne de jouets s'il n'a pas la quantité d'amour qu'il lui faut? Il est alors lui-même comme un jouet abîmé. Mais il y a autre chose. La formation d'un enfant en vue de sa vie d'adulte responsable, de citoyen, de mari et de père, suppose un enseignement étayé par l'exemple et consolidé par la discipline. J'entends cet enseignement dans le domaine moral, évidemment. Le respect de l'autorité, l'honnêteté de caractère, la sincérité, la franchise, l'amour du beau et du bien, la droiture, la justice, la pureté. Pour cette tâche sacrée, il faut donner de son temps et être soi-même un exemple convaincu et convaincant des principes que l'on veut inculquer. Car à quoi sert de dire à l'enfant qu'il ne doit pas mentir si on l'envoie dire « Maman n'est pas là » lorsqu'on sonne à la porte? À quoi sert d'enseigner à l'enfant l'honnêteté et la loyauté dans ses rapports avec les autres si à la maison il entend son père se vanter d'avoir roulé un tel ou d'avoir réalisé une bonne affaire parce qu'il a su être le plus malin? Comment voulez-vous qu'un enfant apprenne à être pur s'il entend ou s'il voit autour de lui des choses impures? Comment pouvez-vous exiger qu'il ne devienne pas matérialiste s'il vous voit, vous, ses parents, continuellement préoccupés par des questions d'argent et associant la réussite avec l'argent? En outre, comment voulez-vous qu'il apprenne à croire et à persévérer dans la prière que vous lui faites faire le soir s'il ne vous voit jamais, vous, ses parents, prier ou vous préoccupant des choses de Dieu? Comment voulez-vous qu'il acquiert des convictions et adopte des principes moraux, ceux que vous leur enseignez, s'il ne vous voit pas, vous, vivre selon ces mêmes principes? Alors, devant cette contradiction constante qu'il voit dans le monde des adultes, dans leurs foyers et leurs éducateurs, est-il surprenant que les jeunes se rebellent? Car ils sont déçus, ils sont désespérés, ils se sentent trahis. Il est évident que je n'approuve pas leurs actes de violence, mais j'essaie avec vous de comprendre pourquoi ils sont ce qu'ils sont. Combien d'hommes et de femmes ont réussi leur vie professionnelle alors qu'ils ont misérablement échoué dans leur responsabilité de mère et de père? Les sociologues, voyez-vous, savent bien que le foyer est irremplaçable, que la société de demain est en formation dans toutes ses familles. Ils savent que le monde de demain sera intolérable ou meilleur selon que le foyer d'aujourd'hui élève l'enfant ou s'efforce de le former en l'aimant, en l'instruisant, en lui inculquant des principes éprouvés par des siècles de pratique, en le corrigeant et même, si nécessaire, en le châtiant pour le redresser. Mais comment souligner cette terrible vérité? Il faudrait d'abord convaincre les adultes. Mieux, il faudrait les convertir aux valeurs indispensables enseignées dans les Écritures. Il faudrait presque que chaque personnalité ayant accès aux moyens de communication de masse se transformât en moraliste, voire en prédicateur, car l'Évangile, ses principes et son message demeurent le seul espoir du monde. Mais on en est hélas réduit à prévoir un renforcement des forces de police pour mieux contrôler cette lente fermentation qui se produit déjà et qui laisse présager un avenir infernal. Lycurgue, l'orateur et homme politique athénien, avait compris l'importance vitale, irremplaçable du foyer, 4 siècles avant Jésus-Christ. Pour inciter ceux de Lacédémone à bien former leurs enfants, il eut recours à cette parabole vivante. Il avait fait nourrir différemment 2 chiens de même portée, l'un à la cuisine, sans l'en laisser sortir avec de pleines écuelles de soupe, l'autre de sang et de venaison, exclusivement. Quand ces chiens furent grands, il fit assembler les personnages les plus importants de Lacédémone. et, après avoir fait disposer au coin de la place un plat de potage et un lièvre, vivant, il lâcha les deux chiens. Celui qui avait été nourri de soupe fila droit vers l'écuelle et s'en fut se mettre la tête dedans jusqu'aux yeux. Mais l'autre n'hésita pas, se lança vers le lièvre, poursuivit l'animal et en fit curer devant tous. « Si vous voulez que vos enfants soient vertueux, leur dit-il, il faut dès leur jeunesse leur apprendre la vertu. » Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, dit l'Écriture, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Mais quelle voie doit-il suivre? Voilà une question qui concerne les parents. Une seule voie est sûre et bonne. C'est celle qui a été enseignée durant des siècles par l'Écriture, dont il est dit qu'elle est vivante et éternelle. Celui qui craint l'Éternel, est-il encore écrit, possède un appui ferme et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Sentez-vous combien ces paroles ont un rapport direct avec notre temps, avec tous les temps? La parole de Dieu enjoint les femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être réservées, chastes, femmes d'intérieur, bonnes, soumises à leurs maris. Elle dit également aux pères d'élever leurs enfants en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur, c'est-à-dire selon des principes qui s'inspirent de Dieu. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Vous qui êtes des parents, qui aimez vos enfants, qui vous sentez dépassés par les événements et qui envisagez l'avenir avec crainte, il faut que vous vous convertissiez d'abord à ces principes de l'Évangile. C'est là que se trouve votre salut, votre sécurité, votre assurance, votre garantie, pour vous et pour les vôtres. Aujourd'hui, vous êtes le Dieu de vos enfants. Avant que l'argile ne soit durcie, imprégnez-la de votre exemple et des principes que vous aurez puisés dans les pages de l'Écriture. Donnez à vos enfants un enseignement vivant par votre exemple. L'exemple est toujours plus éloquent et plus convaincant que les mots. Ils iront où vous les conduirez. Ils seront ce que vous voulez qu'ils deviennent. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas.